Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission au fil des pages sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la troisième fois, je crois, ici, André Gardy. Bonjour André.
Bonjour Christian.
Nous sommes contents de vous accueillir pour parler de votre dernier livre intitulé « Sous l'œil de Faustin ». Mais avant cela, je voudrais faire un petit rappel sur votre personne et sur votre travail. Vous êtes à la fois un écrivain et un homme de l'image, un homme de cinéma. Vous avez commencé comme professeur de lettres, je crois, et puis vous avez été en Afrique et vous êtes intéressé au cinéma. Vous avez écrit beaucoup de livres sur le cinéma et notamment sur...
Sur Alain Robbe-Grillet.
Robbe-Grillet, voilà. Et nous allons reparler tout à l'heure à propos de ce livre. Mais ce qui me frappe, c'est que alors, vous avez une énorme bibliographie, vous avez commencé à écrire depuis très longtemps. Beaucoup de vos livres sont épuisés, mais d'autres ont été réédités. Je crois que l'un des plus anciens, c'est un livre qui est « Les années de cendres » en 2005. Non, mais vous avez « Derrière les murs ». Derrière les ponts, les ponts, 2002, et qui a été réédité à plusieurs reprises.
Oui. Ouais. Ah, et alors, sur les ouvrages de cinéma, c'est encore plus ancien.
Voilà.
J'en ai un qui date de 1993, oui. L'espace au cinéma, et qui a été réédité il y a 5 ou 6 ans.
J'ai vu même qu'il y en a un de 87, sur le cinéma africain.
Oui, bien sûr. Alors, mais celui-là, il est encore distribué, oui. Effectivement. Chez l'Harmattan et on peut le commander chez l'Harmattan.
Donc, vous êtes un homme de l'image, mais vous avez écrit sur l'image beaucoup, oui. Vous avez travaillé là-dessus. Et puis, quand vous avez arrêté ce travail de cinéaste, de cinéma, et vous vous êtes orienté vers la littérature. Et donc, derrière les ponts, c'est un... à la fois un souvenir de Nîmes, parce que vous êtes Nîmois, vous êtes, oui, né à Nîmes, vous avez passé votre enfance et votre jeunesse ici, donc elle est nourrie de tout ce que vous avez vu
à Nîmes.
À Nîmes. Et on le verra d'ailleurs sous l'œil de Faustin, il y a de temps en temps des clins d'œil.
Un petit clin d'œil, c'est vrai, vous les avez repérés.
Pour les Nîmois, ils les retrouveront facilement. Alors, ce qui m'a étonné, c'est en regardant toute cette longue bibliographie, c'est que vous avez des éditeurs chaque fois différents. Et alors, je voulais vous interroger à propos de l'édition, puisqu'on est en plein dedans aujourd'hui.
Vaste programme.
Alors, comment on fait quand on édite, on choisit...
On est choisi, surtout.
On est choisi.
Bon, alors, si vous voulez, je vais essayer de faire rapide. Au niveau de l'édition, je suis un auteur, j'ai écrit un texte et je pars à la recherche d'un éditeur. J'ai aujourd'hui à peu près 3 solutions. La première, la plus facile, la plus banale, je suis en auto-édition. C'est-à-dire, c'est moi qui vais commander, qui paye l'imprimeur, je paye tout. Résultat, j'ai les ouvrages et je me débrouille pour essayer de les vendre.
Oui.
Bon, ça, c'est la solution la plus facile parce qu'on n'a pas à chercher un éditeur puisqu'on est soi-même l'éditeur. Oui. Ensuite, vous avez l'édition classique qui vous envoie votre manuscrit à un éditeur. Si l'ouvrage l'intéresse pour les raisons X ou Y, il va passer un contrat avec vous et théoriquement, il prend en charge tous les frais et il vous versera soit un avaloir, soit des droits d'auteur.
Oui.
Et c'est lui qui va se charger d'assurer la promotion, la vente du livre. Ça, c'est la deuxième solution. Il y en a une troisième qui est apparue là depuis quelque temps, depuis Internet, depuis le numérique, qui est ce qu'on appelle le tirage à la demande. On peut aujourd'hui, déjà depuis quelques années, on peut faire un tirage, vous commandez le livre, en 24 heures, il peut être tiré. Ce qui évite évidemment à un nombre d'éditeurs d'avoir des stocks et donc d'avoir des frais. La mise de fonds est... pratiquement, peut être quasi inexistante.
Ouais.
Avec l'inconvénient, quand on procède de cette manière-là, c'est qu'on ne le met pas en place dans les librairies.
Eh oui.
et on n'est pas vraiment dans la chaîne du
donc,
livre.
C'est...
Donc, à la fois pour l'auteur, alors généralement, ce sont des, il y en a une flopée de, d'éditeurs qui sont apparus. Ils vont dire à l'auteur, je prends tout en charge, la seule chose que je vous demande, c'est de m'acheter un nombre X de livres, mettons entre 40 et 50 ou 60 exemplaires. Et si on calcule bien, ces 40 ou 50 exemplaires paient déjà les frais qu'a engagé l'éditeur. Donc, il n'engage rien.
Oui.
Donc, du coup, généralement, il y en a qui font un autre travail, mais généralement, ils se dispensent d'essayer de le vendre puisqu'ils se sont déjà remboursés.
Oui.
Voilà. Donc, ça, c'est la troisième solution. Voilà, en résumé.
Et vous, vous avez navigué entre ces trois solutions ?
Alors, non. La toute première, l'auto-édition, non, je n'en voulais pas, pour des raisons X ou Y. Enfin... parce que ce qui me semble intéressant quand on a un éditeur, c'est que c'est une forme de reconnaissance.
Ben oui,
au moins
sûr.
Quelqu'un qui reconnaît l'intérêt de votre travail, puisqu'il est prêt à mettre de l'argent là-dessus. Voilà. Donc c'était cela que je cherchais. Et quasiment tous mes livres ont été édités dans ces conditions-là, à part un, qui a été dans le système que je vous disais, le système du tirage à la demande.
Oui.
Voilà. Et... voilà, mais alors pourquoi plusieurs éditeurs ? Bah parce qu'on est deux, hein. Et que alors le premier où j'avais publié Derrière le pont, il a été racheté par Flammarion. Le deuxième, Max Chaleil, c'était les éditions de Paris, elles existent toujours, mais il avait en même temps les presses du Languedoc. Il a vendu les presses du Languedoc.
Il avait peu de chance, quoi.
Alors, j'ai l'impression que quand je rentre, on me ferme la porte derrière. Ça, je n'ose pas le dire aux éditeurs. Non, mais là, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a...
Enfin, c'est remarquable que vous ayez plusieurs de vos livres ont été réédités à plusieurs reprises. Ça, c'est
et pas toujours par l'éditeur d'origine, c'est surtout ça.
Alors... ce qu'il faut souligner aussi et dire, c'est que vous êtes un écrivain, vous êtes un romancier, mais pas que. Vous avez écrit aussi beaucoup de livres en rapport avec la nature, en rapport avec la société, avec la région, et essentiellement la région de votre enfance.
Voilà, alors, disons que le tout premier Derrière les ponts, c'est Nîmes dans les années 50.
Oui.
Donc là, c'est un récit, c'est vraiment un récit, c'est pas un roman.
Oui.
Il est fait d'ailleurs de petits textes qui se disposent comme une forme de puzzle et qui essayent de rendre compte de cette ville, Nîmes, de ce contexte socio-culturel qui était Nîmes à ce moment-là, vu par le point de vue d'un enfant, bien entendu. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus personnel. Ensuite, il y a deux ouvrages que j'ai faits avec Jacques Mauduit, qui s'appellent l'un je décris en route vers les Cévennes et la Margeride, et l'autre qui est sur la Lozère. La Lozère, je t'écris de la Lozère, du Gévaudan, ma Lozère.
C'est un photographe, Mauduit ?
Non. Alors, oui, il est photographe, mais il n'est pas photographe professionnel. Alors oui, là, on avait... Au départ, on devait faire ce livre à trois.
Oui.
On était deux à écrire des textes, Jacques Mauduit et moi, et on avait un photographe qui était Pierre Donin. Malheureusement, Pierre Donin est décédé entre-temps.
Oui.
Donc, il nous a laissé d'ailleurs un certain nombre de ses photographies. Donc, il y a les siennes, il y a celles de Jacques Mauduit, il y a un peu quelques-unes des miennes. Voilà. Donc, c'est un ouvrage. Ce sont des ouvrages, comment dire, une sorte d'essai documentaire. Sur à Lozère, quand on en parle, on dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur à Lozère, sans jamais oser le demander. C'est la Lozère, 50 ans de Lozère, sur tous les sujets, toutes sortes de sujets. Je décris en route vers les Cévennes, c'est un petit peu l'idée des routes. Qu'est-ce qui se passe le long des routes ? Et la grande route, évidemment, pour nous, et pour les Nîmois, c'est Nîmes-Alès, bien sûr, c'est le grand axe. Et il se trouve que Jacques Mauduit et moi, séparément, on ne se connaissait pas à l'époque, moi je l'ai parcouru à bicyclette pendant toute mon adolescence.
Oui.
Parce que j'avais une partie de ma famille qui était à Rousson, et donc je faisais le trajet Nîmes-Rousson assez régulièrement. Je la connaissais absolument par cœur. Et sur cette route, il y a plein de petites anecdotes. Alors, soit que j'ai vécu, soit... qui sont inscrites dans l'histoire. Par exemple, il y a une, sur cette, le long de cet axe, il y a quelque chose qui est inscrit dans l'histoire dramatique, c'est le grand déraillement qui s'était produit en 1957.
Oui.
Le train de Paris, qui arrivait de Paris, qui a déraillé au niveau de Brignon, et qui a fait 27 morts et oui. je ne sais combien de blessés.
Oui.
Voilà, donc je raconte par exemple cet épisode-là parce que je me souviens de l'avoir vécu.
On fait une petite pause si vous voulez avec la musique que vous avez choisie. Radio Alliance Plus, 103.2 FM à Nîmes, et puis vous pouvez nous écouter aussi sur radioalliance.fr, et puis sur tous les systèmes d'écoute de la radio. Nous sommes toujours avec André Gardy, qui est écrivain et homme de cinéma. Nous parlions donc de vos livres sur les Cévennes, sur la Margeride, sur la Lozère. Je crois qu'un de ces livres, d'ailleurs, a obtenu un des prix
Le Vieux Cévenol et l'Enfant qui a obtenu le prix Lucien Gachon en 2014, oui. qui est un prix un peu particulier et tout à fait intéressant. C'est un prix qui est attribué par les lecteurs et lectrices des médiathèques d'Auvergne.
Oui, donc c'est
un prix de lecteur.
Oui, oui. Alors, je voudrais aussi ajouter que, bon, c'est vrai que vous êtes un écrivain, vous êtes un homme de cinéma, et ça se voit dans le... Vous avez un site remarquable, un site internet très, très bien alimenté, où tous les livres que j'ai évoqués sont décrits, enfin, on voit ce dont vous parlez. Et vous y avez ajouté des images, puisque vous êtes un homme de cinéma. Donc, il y a plusieurs petites vidéos tout à fait intéressantes. Et là, nous passons donc à ce livre que vous présentez aujourd'hui, Sous l'œil de Faustin, qui commence par une indication, à savoir que vous aviez, il y a assez longtemps, fait un petit travail de cinéma. Petit travail, enfin, je dis petit travail parce que je crois que c'est vous qui le dites.
Ah, oui.
un peu à la suite de Robe Grillée.
Avant Robe Grillée. Alors oui, je raconte en avant-propos parce que j'avais raconté ça à l'éditeur, mais il m'a dit on pourrait en faire un avant-propos. Donc
oui.
J'en ai fait un avant-propos. C'est une histoire assez étonnante. Le livre est directement inspiré d'un film de court-métrage que j'ai réalisé en 1970.
Et qui s'appelait déjà Faustin.
Qui s'appelait Faustin, virgule, désormais, trois points de suspension,
oui.
parce que désormais, c'était après la perte de sa femme,
oui.
c'était sous-entendu.
Et donc, à partir de là, sur la suggestion donc, de votre éditeur ou de votre ami, vous avez décidé...
Exactement. Non, alors c'est même une histoire un peu plus compliquée. Elle est, donc l'avant-propos, on le rappelle, mais pour faire très vite, il se trouve que ce film a été diffusé à l'époque par le collectif Jeunes Cinéma. Comme il était diffusé, je m'en suis plus soucié. Et pendant 50 ans, j'ai complètement oublié l'existence de ce film. Il n'y avait qu'une copie. Hein.
Oui.
Et quand il y a quelque temps, je me suis dit, mais tiens, est-ce que ce collectif existe toujours pas à l'occasion? Et je téléphone, je prends des contacts et je m'aperçois que mon film existait encore, mais il était sur des étagères parce qu'il avait été abîmé et on ne pouvait plus le diffuser. Donc je l'ai récupéré, numérisé et je revois mon film près de 60 ans plus tard. Oui. L'émotion a été telle que j'ai eu envie d'écrire. Je me suis dit, je vais... Ah, puisque maintenant j'écris, je vais écrire à partir de là. Voilà.
Donc tout auditeur de cette radio aujourd'hui peut découvrir ce film en allant sur votre site internet.
Ah oui, bien sûr, il est sur YouTube.
C'est un film d'une un peu plus d'une demi-heure, je crois.
Oui, à peine, une petite demi-heure.
Une petite demi-heure, c'est... Bon, ça vous plonge dans un cinéma de cette époque.
Hein, complètement. Il est d'autant plus de cette époque qu'il est tourné évidemment en noir et blanc. Et avec une caméra muette, ce qui explique que la bande-son n'est pas ce qu'il y a de mieux réussi dans ce film.
Vous démarrez pour écrire ce livre, et là, à la différence d'autres écrits, c'est... ça se passe pratiquement toujours en ville. Hein. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de. Il y a peut-être un peu de soleil, un peu de pluie de temps en temps, mais guerre.
Voilà, c'est vrai.
Ce sont surtout des. Alors évidemment, c'est aussi compliqué parce que on peut pas raconter un livre comme celui-là. Mais comment vous le présenteriez, vous?
Comment je le présenterais? Bien, je crois que c'est l'histoire d'un homme. Qui est un peu fragile, psychologiquement, et il suffit de peu de choses pour que la machine, sa machine, se dérègle. Et ce peu de choses, c'est qu'un jour, il va au boulot, et devant, à l'entrée du bureau, il y a des piquets de grève, et on lui interdit l'accès. On le lui interdit un premier jour, un deuxième jour, et là, le deuxième jour, il craque. Bon, puisqu'on lui interdit l'entrée, il va se balader. Pour la première fois, il se promène en ville, parce que c'était quelqu'un qui était très réglé, qui allait au travail, qui rentrait chez lui, etc. Et là, il y a une sorte de vacuité, et donc, il va errer en ville. Et du coup, il va, petit à petit, faire attention à la ville, à ce qui l'entoure, et il va s'aider pour cela, et c'est la caractéristique peut-être de mon personnage, d'un appareil photo.
Oui.
L'appareil photo, lui, ce qu'il aime dans l'appareil photo, ce n'est pas la photographie, c'est la prise de vue.
La prise de vue, oui.
Parce qu'il y a, dans la prise de vue, on va prendre quelque chose. Et pour lui, il va prendre un certain nombre de choses, et des choses qui touchent évidemment assez rapidement à son activité fantasmatique, et donc du côté des femmes notamment. Parce qu'il se trouve que dans la vie réelle, il n'a pas eu trop de succès avec les femmes, parce qu'il était timide, parce qu'il était renfermé, enfin, peu importe les raisons, il s'est toujours senti en état de faiblesse devant les femmes. Et le fait d'avoir cet appareil photo,
ça lui donnait sa force. Un peu de pouvoir.
Voilà.
Oui. Un livre qui n'est pas très... C'est un petit format.
Oui.
C'est un livre qui n'est pas très, très long.
150
pages. Mais effectivement, qui réserve des surprises. En même temps, on comprend bien ce travail autour de la photo, cette passion qu'il a.
Voilà. En même temps, alors ça, c'est pour Faustin. Sa passion, c'est la prise de vue. Pour l'auteur... L'autre problème, c'était celui de l'écriture. Et surtout quand on vient de son propre film.
Oui.
Je me souviens que je savais que je voulais écrire là-dessus, j'avais l'envie qui était là, mais il m'a fallu du temps pour démarrer. Parce que ce dont j'avais besoin, je n'avais pas besoin des actions. Le personnage était dans le film. Bon, il y a pas mal de modifications, mais globalement, j'ai dans le film la matière du livre. Donc je n'avais pas à me soucier de ce côté-là. En revanche, je suis dans l'écriture, je ne suis plus au cinéma.
Oui.
Et donc, il fallait trouver la bonne note, la bonne musique. Et j'ai mis longtemps, et elle est arrivée avec pratiquement la première phrase. 8 jours maintenant qu'ils ont éventré la rue.
Oui, ça frappe cette...
Voilà. Parce que m'a semblé, et alors après, les choses ont découlé un petit peu de cette musique oui. initiale. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette musique? Il me semble qu'il y a cette sorte de menace oui. globale qu'est la société. Ils ont éventré la rue. Donc là, en plus, il y a une sorte de personnification de la rue. Et on en verra tout le sens, puisque c'est en longeant la rue qu'il va être pris de vertige.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, il y a, je trouve, dans cette première phrase, on ne m'a pas analysé, on n'est pas oui. à l'école, mais il m'a semblé, d'abord, pour moi, elle sonnait juste, et après, je me suis rendu compte qu'elle sonnait juste, peut-être pour les raisons que j'essayais d'évoquer très rapidement.
Et c'est effectivement cette inquiétude qu'il a, ça frappe. Et on ne sait pas très bien où, lui-même, on ne sait pas très bien où il va. Il se cherche
oui.
beaucoup.
Ah bah, et puis il s'imagine des tas de choses. Bon, par exemple, dans le tout premier chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis un homme gentil, ouvert aux autres ». C'est ce qu'on dit.
Oui, c'est ce qu'on dit.
mais il a besoin de se référer à ce que les autres disent oui. pour s'assurer de lui-même. Mmh. Voilà. Alors qu'en réalité, ce qu'il dit de lui... montre que c'est exactement le contraire qu'il est,
oui.
ou presque, sinon, voilà, qu'il est très différent en tous les cas.
C'est la première fois donc, que vous sortez un peu par rapport aux autres livres, c'est que vous changez complètement de style.
Oui, alors là, totalement, c'est vrai, mais ça c'est dicté totalement par le fait...
Par le fait que vous êtes parti de votre...
De mon propre film, oui. et que réaliser un film et écrire un livre, ce n'est pas du tout la même chose.
Oui. Alors, un certain nombre de vos lecteurs commentent vos livres et il y en a un qui dit ceci, je me permets de le lire si vous voulez. Le grand talent d'André Gardier, en décrivant le monde dans ses moindres recoins, dans ses détails les plus infimes, comme la maison d'édition du même nom,
oui, ces éditions infimes.
De nous captiver, de nous capturer, de nous piéger par la grâce de sa maestria stylistique, de sorte que une fois qu'on a pris le livre en main, on ne le lâche plus, ou plus exactement, il ne nous lâche plus. Ainsi, le combat quotidien du narrateur contre les biscottes qui se cassent au petit déjeuner en devient épique. À peine j'avais réussi à amener une première tartine au-dessus du bol pour la plonger dans mon café au lait, qu'elle s'est disloquée en fragments informes. De grosses gouttes de liquide ont sauté par-dessus bord pour s'écraser en taches marron sur le formica de la table. Ça faisait des dessins bizarres, comme des visages, des figures mystérieuses, menaçantes pour certains. Voilà encore cette menace, cette inquiétude
oui. du personnage. Oui,
du personnage. Alors, on va écouter une deuxième deuxième musique que vous avez oui. choisie.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleurer la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent. Vous en inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant.
Vous êtes donc toujours sur Radio Alliance Plus, 103.2 à Nîmes, et nous sommes avec André Gardy qui nous a présenté son livre « Sous l'œil de Faustin ». Alors, merci André d'avoir, pas résumé, mais présenté un peu l'origine de ce livre. Vous avez d'autres projets maintenant ?
Ben oui, je vais essayer de revenir à quelque chose qui m'est plus familier et essayer de remonter du côté de la montagne et du côté des Cévennes.
Oui. Et c'est pour quand ?
Oh, alors là, c'est très difficile de faire des prévisions comme ça parce que j'écris très lentement. Bon, j'aimerais bien, disons, qu'il soit terminé le manuscrit, enfin le premier G au moins, à la rentrée d'octobre ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a rien dessus.
Vous dites lentement, mais en fait, vous faites un livre par an. Hein, c'est...
tous les ans et demi.
Voilà. Ouais. En tout cas, merci encore d'être venu, de nous avoir présenté ce travail et nous sommes heureux d'avoir pu en parler un petit peu.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter un point.
Non, bah écoutez, je crois qu'en faisant les librairies de Nîmes, on devrait le trouver.
Voilà, alors effectivement...
Mais sinon, on peut le commander, bien entendu, oui. Et chez l'éditeur, chez les plateformes en ligne, etc.
Et puis, bien sûr, beaucoup d'autres livres, puisqu'on l'a dit, il y a Sous les ponts qui concernent Nîmes, et puis d'autres livres qui concernent l'Auvergne, la Lozère.
Les Cévennes, la Lozère, voilà.
Sans compter le Gros du Roi.
Sans compter le Gros du Roi. Vous avez raison, puisque c'était ma première visite ici. C'est vrai.
Merci beaucoup. Et puis, alors, à la prochaine.
À la prochaine, Christian, et merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi.